Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. En ces temps de restrictions budgétaires où les services publics sont incités à faire toujours plus d'économies, il eût été logique d'envisager non pas deux, mais un seul hommage national conjoint à Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson. Le calendrier les a réunis dans l'au-delà à quelques heures d'intervalle. Le protocole aurait très bien pu les célébrer ici-bas dans un même élan. D'autant que la synchronicité de leur disparition n'est pas le seul élément en mesure de les rapprocher. Chacun incarnait à sa manière une certaine idée de la France, un petit bout du roman national tel qu'il s'écrit désormais à la lumière des caméras de télévision. Une France à la fois rebelle et bien élevée, populaire et lettrée. Une France souriante, consensuelle, rassurante. Mais une France qui a peut-être déjà cessé d'exister. Ce pourrait être une hypothèse pour comprendre la dimension déraisonnable des réactions qui ont suivi la disparition de l'écrivain puis du chanteur. Ce n'est pas leur faire insulte de dire que ni l'un ni l'autre ne marquera durablement l'histoire de la littérature ou de la musique. Une belle œuvre, oui, de grands créateurs, non. C'est donc bien au-delà de leur contribution artistique et peut-être aussi au-delà de leur seule personne que se jouent les effusions républicaines du moment, effusions auxquelles il ne semble plus permis d'échapper. Alors Johnny, Jean d'Ormesson, qui ne pleure pas, n'est pas français. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois des membres. Voilà, c'est un petit peu avec retard, le petit jiggle, merci. À trois des membres de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous enseignez à Sciences Po. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, on peut vous lire régulièrement dans le magazine Challenge. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste. La guerre des idées, c'est une émission que vous proposez chaque semaine sur le site là-bas, si j'y suis. Et puis un invité qui connaît bien la maison France Culture, puisqu'il s'agit de Pascal Horry. Bonsoir.
Bonsoir, Hervé Gardette.
Historien, professeur à la Sorbonne. Vous avez publié, je ne vais citer que le dernier ouvrage, sinon ce serait trop long, Peuple souverain de la révolution populaire à la radicalité populiste, ouvrage publié chez Gallimard. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, avec ces hommages qui sont rendus quasiment coup sur coup à Jean d'Ormesson, hommage national, c'était ce midi, et puis un autre hommage d'une nature un petit peu différente, qu'on qualifie d'hommage populaire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, à Johnny Hallyday, sa dépouille, un cortège funéraire qui va traverser les Champs-Élysées pour ensuite une messe à l'église de la Madeleine, au cours de laquelle le président de la République, comme il l'a fait aujourd'hui, devrait intervenir, même si ce sera de manière un petit peu plus brève, semble-t-il. Quelle est d'abord votre première réaction par rapport à l'ampleur de ces hommages qui sont rendus, de ces commémorations, Aude Lancelin ?
Je ne suis pas tellement surprise, hein, si vous voulez. Mais au-delà de la coïncidence temporelle entre ces deux morts, moi j'établirais quand même une grande différence entre ces deux figures. Il y en a un qui, on aime ou on n'aime pas ses chansons, vous y faisiez allusion tout à l'heure, mais enfin qui est un artiste. L'autre qui était quand même avant tout un idéologue, même si sur le tard il a construit un personnage de vieux conservateur humaniste et d'excellent client de plateau télé. Rôle dans lequel seul à vrai dire Fabrice Luchini lui succède aujourd'hui, et donc je pense que on y reviendra, j'espère. Jean d'Ormesson, c'est quand même en tant qu'idéologue qu'il faut l'enterrer, il faut parler de ce qu'il a dit,
et pas en tant qu'écrivain,
de ce qu'il a fait. Moi, si vous voulez, alors réglons tout de suite la question de l'écriture de Jean d'Ormesson. Pour moi, l'entrée en Pléiade de Jean d'Ormesson est l'un des grands scandales des 10 dernières années et montre que la maison Gallimard est passée au hard selling. Parce que si vous voulez...
Alors là, vous êtes un peu dur, mais pardonnez-moi, Aude Lancelin.
Je termine juste une phrase. C'est certainement le volume de Pléiade qui se vend le plus, et c'est celui qui est le moins mérité, je crois, de l'aveu général.
J'aimerais bien, si vous le voulez bien, que cette émission ne soit pas forcément d'ailleurs consacrée à revisiter la qualité de l'œuvre de Johnny Hallyday ou de Jean d'Ormesson, mais c'est plutôt la question des commémorations qui ont lieu autour, hein, qui me semble intéressante, parce qu'on a quand même beaucoup entendu parler là depuis quelques jours, et peut-être que ça commence aussi un petit peu à saturer chez certains. Mais moi, la question, elle portait vraiment sur l'ampleur des commémorations et peut-être sur une forme de disproportion. En tout cas, est-ce que disproportion, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, Anastasia Colosimo ?
Alors, vraiment pas. Moi, je. Alors, évidemment, c'est toujours surprenant quand il y a un tel. Enfin, on sent qu'il y a eu un choc vraiment dans la population, particulièrement, il me semble, pour Johnny. Je pense que ce n'est pas très étonnant ni disproportionné. Jean d'Ormesson était un immortel, puisqu'il était à l'Académie française. Et je ne dirais pas du tout que c'était un idéologue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il plaisait énormément, parce qu'en fait, il était assez. Assez peu marqué idéologiquement, bien qu'il ait dit toujours qu'il était de droite. Johnny était immortel parce que c'était le Johnny sur la scène. Donc je pense qu'il y a un choc immense, comme toujours, pour ces grandes personnalités, chacune à sa manière immortelle, dans le fait que quand elle meurt, on se disait que c'était impossible et finalement elle meurt. L'émotion est très vive, elle est très grande, elle est aussi très unificatrice à un moment où il y a un besoin certainement aussi d'unification.
Vous dites un choc immense comme toujours. Je me tourne justement vers l'historien que vous êtes, Pascal Horry. Comme toujours, c'est toujours comme ça que ça se passe, ou bien est-ce que là, ça a pris quand même une dimension un petit peu différente de d'habitude ?
Je ne pense pas que ça ait pris une dimension si différente que d'habitude. Dans votre introduction à Weygaardet, vous laissiez percer un certain agacement sur la dérive médiatique de tout ça, et puis l'hypothèse que tout ça, ça allait clore un cycle, et qu'on n'allait plus vraiment connaître ça, une France peut-être qui n'aurait plus des héros à célébrer à l'avenir. Je n'en crois strictement rien, parce que toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, et géographiquement, de la Corée du Nord à l'Afrique du Sud, à ses héros. Et
ces héros, ce que je voulais dire, pardonnez-moi Pascal Horry, c'était moins le fait qu'il y aurait peut-être plus de héros à célébrer à l'avenir, que ces célébrations-là étaient aussi le signe d'une forme de nostalgie d'une France qui n'existe peut-être plus.
Mais je pense que dans toute héroïsation, à l'occasion en particulier de funérailles, quand ce n'est pas les funérailles d'un héros jeune, bon, c'est une sous-catégorie intéressante, c'est forcément récapitulatif. Quand nous étions, puisque j'en étais, 2 à 300 000 en 1980 derrière le cercueil de Sartre, ça tenait essentiellement à ce que Sartre avait été, ce qui était exceptionnel, ce qui n'était pas le cas de Barrès, etc., le héros intellectuel de trois générations. L'après-guerre, la décolonisation, mai 68. Ça, c'est un record. Il avait une médaille d'or. Bon, il est clair que Johnny, c'est ça. Johnny a été le chanteur populaire. On en pense par ailleurs ce qu'on en veut, et comme je pense que je veux, de la pensée de Sartre, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais, clairement, il y a eu une identification. D'une certaine façon, dans le cas de Johnny et de tous ces grands héros populaires, et vous aurez des Johnny Hallyday dans chaque pays, et vous aurez des Michael Jackson dans chaque pays à un certain moment, dans un certain état de température et de pression, eh bien, c'est la société qui se célèbre. Bon, c'est beaucoup moins vrai, bien sûr, pour d'Ormesson. Il faut bien voir qu'à travers Johnny, beaucoup de Français se regardent dans la glace et se célèbrent. Et ça, oui. c'est à prendre au sérieux. Moi, en tant qu'historien, je ne vous dis pas ce que je pense de Johnny Hallyday comme chanteur. Hein.
Philippe Manière, vous vous regardez dans la glace, vous, à travers ces commémorations ?
Pas vraiment. En plus, moi, j'ai une forme j'ai beaucoup de mal avec les commémorations et les fêtes populaires. Comme ça, je ne comprends pas très bien ce que les gens font ensemble. J'ai du mal, personnellement. Mais je comprends très bien, c'est les goûts, les couleurs. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est... Je suis complètement d'accord avec l'analyse du point de vue de l'historien. C'est-à-dire qu'il y a, à intervalles réguliers, des gens qui, effectivement, incarnent en quelque sorte une époque. Alors, vous avez tout à fait raison, quand c'est sur plusieurs générations, à la fin, ça fait un nombre de gens qui se sentent concernés personnellement, parce que c'est un bout de leur identité qui s'en va, qui est assez considérable. Et je pense, comme vous, que c'est cyclique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui sur qui on pleurera dans 50 ans, mais dans 50 ans, il y aura exactement le même phénomène, s'agissant de quelqu'un qui aura disparu et qui incarnera, pour faire simple, la génération, la nôtre, celle de nos enfants, celle de nos petits-enfants, ou celle de nos parents, la nôtre et celle de nos enfants. Je crois, en revanche, qu'il y a, et d'Ormesson, pour répondre à Weygaardet, je pense qu'il y a effectivement, dans les deux cas, il y a un point commun, dans les deux cas, il y a quelque chose qui est ressorti à la disparition d'un bout d'identité de la France. Mais là où moi je fais une différence, c'est qu'il me semble que Johnny Hallyday est vraiment dans son époque, de son époque, et qu'il ne renvoie qu'à ça. Et que précisément, il y aura dans 50 ans un autre Johnny Hallyday, comme il y a pu avoir avant, je ne sais pas quoi, Luis Mariano, enfin il y a eu des équivalents aussi dans le passé qui transportaient les foules. Je pense que dans Jean d'Ormesson, même si évidemment ça n'est pas de même ampleur parce qu'il était moins connu et moins populaire que Johnny Hallyday, je pense que lui, c'est pas seulement la disparition de quelqu'un qui a marqué son époque. Je pense qu'il y a un soupçon chez un certain nombre de gens, dont moi-même, pour dire la vérité, qu'il marque la fin d'une tradition française, en tout cas d'une partie d'une tradition française. Ça fait à peu près 300 ans que dans l'identité française, il y a quelque chose qui est ressorti à l'élégance, au classicisme, et que Jean d'Ormesson, même si on n'aime pas ce qu'il écrit, et je comprends très bien que Aude Lancelin n'aime pas ce qu'il écrit, incarnait parfaitement. Pas seulement, et il le disait lui-même, vous avez raison de le souligner, mais il le confessait lui-même parce qu'il passait bien à la télé. Il a dit 100 fois qu'il savait que son succès, c'était principalement ça, mais aussi parce que son écriture, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, avait quelque chose de profondément classique, que son comportement
comportement, avec quelque chose de profondément classique. Et je pense qu'il y a dans la mort de d'Ormesson quelque chose qu'on peut considérer comme peut-être étant la fin d'une certaine tradition française classique, élégante. Alors que Johnny Hallyday, à mes yeux, aussi important soit-il aux yeux d'un certain nombre de gens, évidemment, n'est que l'incarnation d'une époque, comme il y en a eu avant et comme il y en aura après.
Ça y est, la discussion est lancée. Tout le monde veut réagir. Pascal Horry, ensuite Aude Lancelin.
Oui, j'ajoute un dernier élément pour expliquer l'amplification autour des deux, à deux échelles clairement différentes et décalées socialement, tout ce qu'on veut. C'est que ce sont deux personnages dont la biographie était au moins aussi intéressante pour une partie du public que leur œuvre. Et ça, à mon avis, ça fait la différence. Parce qu'on pourrait dire, en ce qui concerne les chansons, Barbara, Léo Ferré, etc., les obsèques n'avaient pas cette ampleur.
Non, attendez, pardon, je vous interromps brièvement. Il y a quand même quelque chose qui est très frappant, c'est que Johnny Hallyday n'était qu'interprète.
Mais
c'est-à-dire
oui,
que, moi, si on me demande les grands chanteurs.
Il a bien interprété sa propre vie, quoi.
Oui, mais exactement, ça vous l'avez raison. Mais Delpech, Fred Chichin, à certains égards, Trenet, Brel, voilà des gens qui écrivaient parfois les deux, souvent des musiques où. Chez Johnny, il y a quand même une particularité. Il a écrit quelques chansons, mais très peu, aucun de ses tubes.
Ouais. Il était presque exclusivement interprète.
Je suis d'accord, mais il était presque exclusivement interprète. Donc c'est intéressant quand on réfléchit au mérite de l'artiste, en quelque sorte.
Aude Lancelin.
Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, Hervé, à savoir qu'il y a une composante très spéciale dans cet hommage à Johnny Hallyday. Il y a une forte nostalgie. C'est vraiment la France des baby-boomers, la France des années 60, qui n'en finit pas de se dire adieu, de s'auto-célébrer. Moi, j'ai vraiment l'impression que toute ma vie, ma génération, et a fortiori celles qui viennent dernière, auront assisté à ça, vraiment. Cette France d'avant la crise... Et cette France qui n'en finit pas de passer d'une certaine façon, et que c'est ça qu'on est en train, une fois de plus, d'avoir en continu en ce moment sur les écrans. On n'ose plus maintenant célébrer mai 68, puisque les célébrations ont été annulées, hein, après avoir été envisagées par l'Élysée. Et donc on célèbre le faux cuir clouté qui nous unit tous.
Donc on célèbre quoi? La fausse rébellion? Ça serait ça, Aude Lancelin?
Bah oui! Oui, bien sûr, avec une petite composante quand même, je modérerai ce propos de quelque chose qui me touche dans le mythe Johnny Hallyday, c'est que c'était réellement le chanteur du peuple. Ça, je peux en témoigner parce que j'ai longtemps habité, figurez-vous, à côté du Parc des Princes, dans les années 90, où Johnny faisait encore des grands concerts à l'époque. Et quand Johnny était au Parc des Princes, pendant 24 heures, dans les wagons, dans tous les wagons de métro de la ligne 9, on avait des sweatshirts à tête de loup, des gens qui vraiment extrêmement, aux revues manifestement extrêmement modestes, qui déferlaient de la France entière. Et vraiment, Johnny Hallyday était le chanteur des prolétaires et l'est encore.
Enfin, le chanteur du peuple ou peut-être d'un certain peuple. Je ne suis pas sûr quand même que dans tous les milieux populaires, aujourd'hui, Johnny ait une telle aura, une telle
notoriété. Chez les plus de 50 ans, je pense que si.
Alors
réellement.
Voilà, oui, donc c'est une partie du peuple, du coup. Anastasia Colosimo.
Je pense que c'est très important dans le cas de Johnny, et là je rejoins entièrement Pascal Horry. Johnny, c'était aussi un destin. Et sa génération, c'est une génération qui a suivi aussi toutes les tragédies de sa vie, et les tragédies, on a eu énormément. Il y a eu le père qu'il n'a pas connu et qui avait été payé par la presse pour le retrouver. Il y a eu la drogue, il y a eu les mariages ratés, il y a eu les enfants dont tu ne sais pas occuper, il y a eu la maladie à laquelle il a survécu. Donc ce qui est très émouvant, je trouve, et ce qui est le plus émouvant, c'est quand on a vu toutes ces images de fans qui disaient « Mais pour moi, c'était comme un frère, c'était comme un mari, il faisait partie de ma famille. » Et Johnny avait cette force-là, et il faut lui reconnaître. Alors, c'était peut-être pas un grand songwriter, comme on dit, mais il avait cette force-là qu'il aimait énormément son public, que son public avait l'impression, en tout cas, qu'il vivait pour lui. Et d'ailleurs, la scène et le public, ça a été à la fois sa bénédiction et sa malédiction, parce que c'est ce qui a entraîné aussi, à mon avis, tous les désastres amoureux qu'il a eus. Et il avait ce lien extrêmement particulier et qui est rarissime. On n'a pas de plus grande bête de scène que Johnny. Johnny, c'est le Stade de France, c'est le Champ de Mars, avec 600 000, 800 000 personnes qui l'écoutent. Et donc, ces personnes-là ont vécu toutes les tragédies avec lui. Et c'est ça aussi qui fait un grand héros, au sens tragique.
Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de mettre la charrue à levant les bœufs, comme on dit, c'est-à-dire de commenter finalement une émotion populaire importante avant même peut-être qu'on en ait eu réellement la manifestation. Je rappelle quand même que l'hommage, c'est demain sur les Champs-Élysées, et que pour l'instant, si les médias se sont emparés justement de cette disparition et s'en sont emparés de manière assez importante, hein, je crois que c'est le moindre...
On peut le dire.
On peut le dire comme ça, n'est-ce pas Philippe Manière ? Également les politiques, c'est-à-dire que je parlais d'Emmanuel Macron, mais alors il y a une phrase qui a beaucoup fait, qui a été beaucoup commentée, celle de la députée Aurore Berger, c'est-à-dire qu'il fait le parallèle entre l'émotion suscitée par la disparition de Johnny Hallyday et l'émotion qui avait été celle des Français à la disparition de Victor Hugo. Est-ce qu'on ne surdimensionne pas un petit peu cette réaction populaire ? De la même manière, pardonnez-moi ce parallèle, vous allez me dire ce que vous en pensez, Pascal Horry, mais qu'on avait aussi peut-être surdimensionné la France unie du 11 janvier 2015, toute la France unie derrière cette bannière « Je suis Charlie », dont on s'était rendu compte après que c'était un petit peu plus compliqué que ça.
Bah, si vous m'entraînez sur la question de savoir si le peuple, ça existe, je vous réponds que évidemment non, et c'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est la fiction utile sur laquelle se fonde toute la modernité politique. Là, pour reprendre ma citation tout à l'heure, de la Corée du Nord à l'Afrique du Sud, c'est la souveraineté populaire. Et vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas là comme référence. Après, vous aurez chacun vos instruments de mesure. Moi, je suis frappé depuis la mort de Johnny, même un petit peu avant quand il était très malade. Vox Populi, alors c'est quoi la Vox Populi ? Le chauffeur de taxi, les gens aux Ingues, ils parlaient de ça. Et ça peut paraître complètement ridicule, j'avais été très frappé au moment de la mort de Carlos. Je parle non pas du terroriste, mais du fils de Françoise Dolto. On ne parlait que de ça dans le café. Et je me suis dit, quand même, ça, Carlos, c'est quelqu'un qui a dû être important pour beaucoup de gens. Donc avant de leur donner des leçons, il faut quand même tenir compte de ça. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de monde demain. Bon, après, c'est pas le peuple. Ça sera jamais le peuple. Mais même derrière Victor Hugo était détesté par les catholiques. Donc il y a peut-être eu 2 millions de personnes, ce qui à l'époque, en 1885, est énorme. En plus, on l'a tout directement fourné au Panthéon. C'est rarissime qu'à votre mort, vous n'ayez même pas l'étape du cimetière normal. Mais on comprend pourquoi. Victor Hugo, c'était évidemment plus important quand même dans la hiérarchie, à mes yeux, mais je pense qu'on sera à peu près d'accord, là, au moins autour de cette table ce soir, que Johnny, dans la mesure, il y a la dimension politique, explicite, civique, qui fait d'ailleurs qu'on arrive au Panthéon. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ont vaguement pu rêver que Johnny arriva au Panthéon, mais c'est dans leur rêve, parce qu'il n'a pas, évidemment, la dimension civique qui est indispensable. Mais le jour où on a panthéonisé Alexandre Dumas, vous savez, c'était limite. Je me suis dit, tiens, si on commence à panthéoniser Alexandre Dumas, certes, un petit peu révolutionnaire, mais pas beaucoup en 1830, mais essentiellement parce que c'est un auteur de best-seller, là, le Panthéon va changer de nature. Mais pour l'instant, on n'en est pas là.
Mais après tout, si c'est quelqu'un qui parlait à ce point-là au peuple, aux classes populaires, pourquoi, finalement, ne pas envisager sa panthéonisation ?
Mais parce que c'est pas ça le Panthéon. C'est pas les hommes populaires, c'est aux grands hommes. Il y a marqué aux hommes populaires, il y a marqué aux grands hommes.
Non, mais c'est surtout alors, d'ailleurs. Mais
d'ailleurs... Pardon.
Non, mais ça n'a jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un hommage populaire.
Je crois que vous n'êtes pas tout à fait logique dans ce que vous dites.
Non, mais c'est parce que c'est pas. Parce que c'est... Justement, c'est pas un hommage national, c'est un hommage populaire. Et là, les termes sont importants, c'est ce qui avait été aussi le.
Pour Edith Piaf. Qui décide que c'est un hommage populaire ?
Pour Edith Piaf, on avait fait aussi un hommage populaire.
Je peux vous dire.
Qui est-ce qui décide ?
Non, c'est purement une négociation avec la famille de Johnny. C'est-à-dire que ce qui existe dans le protocole, parce que tout ça, c'est le protocole, il faut y penser. Vous avez la hiérarchie, deuil national, hommage national, funérailles nationales, et puis au sommet, le Panthéon. Et la famille, visiblement, a refusé hommage national. Donc on a inventé hommage populaire, mais ça n'a aucune réalité en termes de catégorie.
Il y a quand même une grande différence entre Johnny et Hugo, c'est qu'il y en a un qui a vécu un exil politique, en effet, extrêmement long, et l'autre un exil fiscal. C'était un proscrit, Hugo, pendant 19 ans. Il a eu une terrible traversée d'épreuves. Et évidemment, dans cette affaire, ce qui est de Panthéon, ce qui est capital, c'est le service rendu au peuple. Quel que soit le respect qu'on ait pour la chanson populaire, et je la respecte vraiment parce que je pense que c'était beaucoup plus difficile et génial d'une certaine façon de communiquer comme ça directement avec l'âme des gens pendant des décennies parfois que d'écrire un traité jargonnant de philosophie. Mais enfin, le service du peuple, il passe bien sûr avant tout par la politique et tous les gens qui entrent au Panthéon ont cette dimension-là.
Philippe Manière.
Non, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué à l'instant, mais je crois qu'on peut s'y arrêter peut-être sur la dimension politique, c'est-à-dire le choix du président Macron d'être très présent dans cette affaire. Alors, il aime la pompe. Donc là, on est servi. Quand il y a un service funèbre, pompe, ça va avec, funèbre. Mais au-delà, je pense qu'il y a quelque chose qui le sert beaucoup qui est pour lui, c'est une occasion formidable d'envoyer avec une relative précision le message dont il se sent porteur et dont je crois il est relativement porteur aux yeux de beaucoup de Français. C'est-à-dire que c'est ce vieux fantasme français de l'alliance de la modernité et de la tradition. Alors, il y a dans la disparition de ces deux grands hommes qui, on l'a dit, incarnaient chacun à sa manière un temps qui est maintenant révolu, quelque chose qui manifeste que c'est différent. Alors, c'est important pour dire.
Ce ne sont pas des grands hommes puisqu'ils ne peuvent pas entrer au Panthéon. Je vous rappelle.
Il y a une page qui se tourne. Non, mais il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. Et donc, comme Emmanuel Macron envoie beaucoup le signal, une page se tourne avec moi. Pour lui, c'est très important de capitaliser là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'est pas par ailleurs vaguement sincère. C'est une autre question. Mais pour lui, c'est important, je crois, de pouvoir montrer ça. Mais alors, je crois, je reviens à ma dichotomie de tout à l'heure, que c'est pas la même page qui se tourne et que, en réalité. On enterre avec Johnny une époque qui, de fait, est terminée. Je suis en désaccord avec Aude Lancelin, c'est-à-dire que je crois que c'est fini, les 60s. Je pense que c'est vraiment... La mort de Johnny et la célébration qui en est faite va probablement marquer la fin de cette nostalgie qui n'en finissait pas de mourir. Voilà, donc je pense que la page se ferme. Et donc, on ouvre une nouvelle ère, ce qui est très bon quand on est jeune et qu'on se veut prometteur de lendemain qui chante. En revanche, la tradition, il y est attaché. Et on voit que dans la composition même de son gouvernement, avec Jean-Michel Blanquer, par exemple, c'est ce message-là qu'il envoie. Il envoie le message de son attachement à la tradition, aux lettres, à l'effort, au classicisme, dans un sens. Et donc, tout ça lui permet, par miracle, mais comme on le sait, il a beaucoup de chance depuis assez longtemps, d'émettre vraiment son message d'alliance de la tradition et de la modernité et de, avec moi, la page se tourne, mais je sais rester fidèle à ce qui est important et je sais m'incliner devant un passé qui a été glorieux et dont j'admire, en tout cas je respecte la dimension populaire elle-même.
Donc en célébrant les autres, ils s'auto-célèbrent aussi un peu, c'est ça ?
Je ne fais pas ce procès, mais je dis que c'est...
Non mais c'est pas forcément un procès, en tout cas c'est le constat que je
reprends. Ils ne se célèbrent pas, mais ils se serrent.
Anastasia Colosimo.
Alors moi, je vais encore même beaucoup plus loin. Je suis complètement d'accord avec Philippe Manière. Je vais même plus loin. Régis Debray parle d'Emmanuel Macron comme d'un galop ricain. Et en fait, Johnny Hallyday, quand on y pense, c'est vraiment le meilleur exemple de galop ricain qu'on ait. Puisque
d'ailleurs,
c'est...
il se fait enterrer à Saint-Barthélemy.
Non, mais c'est-à-dire qu'il se fait appeler Johnny Hallyday. C'est lui qui amène quand même la musique américaine en France. C'est l'américanisation aussi de la chanson française, Johnny Hallyday. Et en même temps, il n'y a pas chanteur plus gaulois. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi une identité en fait dans ce gallo-ricanisme entre Emmanuel Macron et Johnny Hallyday qui pousse aussi, je pense, Emmanuel Macron à aimer. D'ailleurs, il était très proche de Johnny Hallyday. Le couple Macron et le couple Hallyday étaient très proches.
Pascal Horry, à quoi servent ces célébrations, ces commémorations quand on est du côté du pouvoir ?
C'est extrêmement important parce que le pouvoir se fonde sur le symbolique. Et qu'en plus, on peut faire parler un mort. Oui. Bon, donc c'est extraordinaire. Mais ça a toujours été... Je suis désolé, c'est peut-être l'antienne des historiens. Ça a toujours été comme ça. Chacun son job. L'homme politique instrumentalise. Vous imaginez bien qu'au moment de la mort de Victor Hugo, les Républicains l'ont complètement instrumentalisé. Il avait donné tous les gages pour ça. Donc c'est classique. En plus, évidemment, en France, nous sommes dans les institutions les plus présidentielles d'Europe. Hein, n'oublions pas ça. Donc évidemment, c'est le chef de l'État qui est en avant. Ça peut être beaucoup plus dilué dans certains pays où il n'y a pas fonctionnellement une personnalité aussi distincte que le chef de l'État français depuis 1958. Donc je pense que c'est assez cohérent. Ah, il s'y ajoute, dans le cas d'Emmanuel Macron, à mon avis, l'opportunité, c'est pas, quand même pas lui qui a assassiné ces deux héros,
pas
qu'on sache pour l'instant, l'enquête se poursuit. Non, c'est que tout simplement, on a là l'image d'une conciliation de deux France qui ont peut-être plus de points communs qu'on imagine d'ailleurs, en effet. D'ailleurs, peut-être que ce sont deux hommes de droite qu'on enterre, après tout. Mais surtout, fondamentalement, puisqu'on est ici dans un endroit qui s'appelle, paraît-il, France Culture, une culture, c'est du Johnny Hallyday comme du Jean d'Ormesson, que je sache. Et ça a toujours été comme ça.
Est-ce qu'il y a une cohérence, de votre point de vue, Aude Lancelin, à ce que Emmanuel Macron... Alors, ce n'est pas le seul. Il ne faut pas non plus résumer les réactions politiques uniquement Emmanuel Macron. Enfin, il se trouve que c'est le chef de l'État. Mais à ce qu'il soit à ce point présent dans la commémoration de cette double disparition.
Non, très franchement,
sur une forme de filiation politique qu'on vient un petit peu d'évoquer.
Je sais bien qu'il est en train d'en profiter autant qu'il peut, mais enfin, je pense que n'importe quel président de la République se serait associé à un hommage à Johnny Hallyday et même à Jean d'Ormesson.
Imaginons par exemple la disparition de Jean Ferrat, est-ce que ça aurait été identique ou bien est-ce que ça aurait été quand même une autre France, autre idée de la France qu'on aurait commémorée?
On recroise, je suis désolée, mais on recroise une problématique politique. l'idéologie portée par Jean Ferrat, auteur d'une chanson très polémique d'ailleurs sur Jean d'Ormesson.
C'est pour ça que je l'évoque.
Au milieu des années 70. Eh bien, cette idéologie-là est totalement blacklistée partout dans nos médias et dans notre univers idéologique en ce moment. Voilà, alors que Jean d'Ormesson, et j'aimerais quand même insister sur ce point, parce que là, bon, une fois encore, on le fait passer pour un gentil grand-père consensuel.
Mais attendez, excusez-moi,
c'est un écrivain, c'est un intellectuel, on peut quand même rappeler ses positions, les positions qu'il a prises pendant plus de 60 ans. Il a été directeur du Figaro quand même.
Brièvement.
On peut quand même en discuter. Il a signé beaucoup dans le Figaro jusqu'à une période extrêmement récente. Alors, ce n'est pas forcément lui rendre hommage que de ne voir aujourd'hui en lui qu'un vieux cabotin narcissique et un bon client du canapé.
On parle plutôt d'un écrivain classique.
Ça vous est sympathique, c'est la différence.
De quoi
les vieux cabotins narcissiques.
Non, certainement pas, ça m'est pas sympathique. Mais en revanche, je trouve pas ça rédhibitoire d'avoir dirigé le Figaro. Je trouve pas rédhibitoire pour un intellectuel d'avoir été de droite. Je pense qu'on a des intellectuels de droite et de gauche en France et qu'on peut commémorer les deux. Et que le deuil, c'est aussi généralement un moment où on dépasse le clivage idéologique et on se rend compte qu'il y a une œuvre, qu'il y a eu des engagements. Et heureusement qu'il y a eu des engagements.
Justement, là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'œuvre. Il y a un personnage médiatique et un personnage aux positions politiques très affirmées. Moi, vous voyez, ce n'est pas la question du Figaro qui me pose problème, parce que Jean-Marie Rouart, par exemple, qui est aussi une signature très emblématique du Figaro, est un homme qui a mené des combats courageux, parfois à rebours de son camp, et je n'aurais absolument pas ce point de vue. Mais ce qui me fascine, même en tant que journaliste, en tant que j'essaie de réfléchir sur la construction du champ médiatique, c'est comment l'image d'un genre d'Ormesson a pu se polisser à ce point au fil des ans. Moi, je voudrais peut-être rappeler quelques phrases prononcées par Jean d'Ormesson. Elles sont en ligne, elles sont sur YouTube. Il y a des extraits de Lina dans les années 80 où on le voit chez Pivot très calmement expliquer que bien entendu l'art nègre ne sera jamais à la hauteur de nos cathédrales et tenir des propos sur la colonisation pour le moins problématique. Et alors surtout, il y a quelque chose quand même qui est ressorti il y a quelques jours, sa série de reportages, c'était une série sur le Rwanda en 1994, on le voit célébré dans un, je peux vous lire la phrase si vous voulez, dans un style, elles seront courtes, dans un style extrêmement lyrique et poétique, la beauté du massacre. Des propos qui jamais n'auraient été tenus, je vais lire les phrases comme ça réglera la discussion, qui ne tiendraient jamais sur les Arméniens, qui n'auraient jamais tenu sur les Juifs, qui n'auraient jamais tenu sur personne.
Alors une phrase peut-être.
Donc les voici. Sortez vos mouchoirs. Il va y avoir des larmes. Âme sensible, s'abstenir. Le sang va couler à flot sous les coups de machette. Partout dans les villes, dans les villages, dans les collines, dans la forêt et dans les vallées, le long des rives ravissantes du lac Kivu, le sang a coulé à flot et coule sans doute encore. Ce sont des massacres grandioses dans des paysages sublimes. Écoutez, bon, voilà, entre autres perles, il y en a énormément comme ça. C'était en réalité.
Vous êtes sûr qu'il les vantait, ces massacres? Parce que cette phrase-là laisse pas à penser qu'il en soit un supporter.
C'est plutôt tragique.
Exactement.
Vous parliez de massacres grandioses dans des paysages sublimes à propos de n'importe quel génocide.
Au contraire, on peut penser que c'est une opposition.
Non, on n'écrirait jamais ça sur le génocide des Juifs ni de personne. D'ailleurs, les Rwandais, y compris de France, ça a été l'objet de plaintes extrêmement graves. C'était un homme en réalité très peu consensuel. Le fait que ça devienne une icône comme ça de notre débat, qu'on ne puisse même pas discuter
sur... vous le discutez quand même.
Qu'on ne puisse pas discuter sans susciter l'indignation ou l'agacement ne rend pas justice à sa radicalité.
On verra les réactions que suscitera votre intervention, Aude Lancelin, mais peut-être aussi parce que le temps de la commémoration n'est pas le temps du réexamen de l'œuvre, Pascal Horry.
Ah ben bien entendu, on est dans l'émotion, on est dans le lissage d'un destin. Mais là aussi, c'est fonctionnel, ça a toujours été comme ça. Et en ce qui concerne les deux, je maintiens... Et,
ça avait été comme ça pour Sartre, puisque vous évoquiez Sartre tout à l'heure.
Mais bien entendu, alors justement, Sartre, c'est le contre-exemple parfait, enfin plutôt, c'est l'exemple parfait qu'on ne peut pas artificiellement mettre l'éteint noir sur Jean Ferrat et artificiellement exalter d'Ormesson. Par exemple, d'Ormesson, dont, je répète, la popularité est très, très inférieure à Johnny, quand même. Hein. C'est le hasard, Édith Piaf, Jean Cocteau, qui fait qu'on en parle. Mais enfin, c'est pas, ils ne boxent pas dans la même catégorie, c'est quand même clair, il faut quand même le préciser.
Ouais, je rappelle mais un juge Jean Cocteau qui meurt la veille d'Édith Piaf.
Il est évident que d'Ormesson, c'est le d'Ormesson biographique, c'est le d'Ormesson, effectivement, télévisuel. Et c'est pas sur ordre de l'Élysée à l'époque de Sarkozy ou de Macron qu'on disait hein, il faut que d'Ormesson vienne, c'est que c'était un bon client, hein, bien entendu. Il était devenu, d'une certaine façon, le comédien qui jouait, c'est comme Luchini d'ailleurs, d'une certaine façon, un comédien qui jouait très bien le rôle de d'Ormesson. Et c'est pour ça qu'il était populaire, pas autant que Johnny, mais très clairement populaire. Et donc, ce n'est pas artificiel et c'est même pas idéologique. Parce que, bien entendu, si on avait enterré simplement l'ancien directeur du Figaro, mais alors là, il n'y aurait pas eu de dommage national. C'est le d'Ormesson hédoniste. Alors, on en pense ce qu'on en veut, hein. Hédonisme de pacotille ou pas, assez tragique dans sa perspective, au fond désespérée, même concernant son propre avenir. C'est ça qui a plu à une large partie de la population. Et donc, qui fait qu'il est honoré. C'est tout.
Ce sont des héros de télévision, finalement, qu'on commémore.
Oui, mais avant, c'était des héros de journaux. C'est ça. Et avant,
Johnny,
c'était des
c'est un,
héros
c'est un
de
héros
rhétorique.
De scène, quand même.
À chaque
Johnny,
époque,
c'est
sa technologie. Ça
Johnny,
a toujours été comme ça.
Johnny, c'est la scène, quand même.
Enfin, moi, quand même, faut rappeler, vous avez raison, Pascal Horry, il ne boxait pas dans la même catégorie. Et en même temps, comme on dit aujourd'hui, dans la catégorie écrivain, qui ne peut pas aller au-delà de ses limites, il avait une popularité très considérable et qui, je crois, transcendait en assez grande partie les clivages sociaux. Le fait qu'il était si souvent invité à Apostrophe, c'est pas seulement parce qu'il faisait, comme disait Aude Lancelin, à juste titre, d'ailleurs, le grand-père parfait, le réac bienveillant, etc. etc.
D'autant qu'à l'époque, il n'était pas forcément grand-père.
Hein, mais c'est la caricature, enfin l'incarnation du grand-père, disait Aude Lancelin. Voilà. Il y avait aussi, dans sa manière de s'exprimer, à l'oral et à l'écrit, si ça passait si bien à la télé, c'est parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et parce que malgré tout, derrière, il y avait... moi, je ne pense pas du tout que ce soit principalement un idéologue. Je pense que c'est d'abord un écrivain qu'on peut trouver médiocre, c'est votre cas, Aude Lancelin. Moi, je pense qu'il est quand même un peu au-dessus de ça et qu'il y a une manière d'écrire, un phrasé, et encore une fois, un classicisme, on y faisait allusion à l'instant, un désespoir élégant qui font partie de la tradition française, de la tradition littéraire française, et qui est une tradition qu'il a honorée et qu'il représente, je crois, de manière parfaitement défendable. Et sincèrement, j'aimerais que tous les mauvais écrivains écrivent aussi mal que lui. On ne peut pas vraiment considérer qu'il est principalement un idéologue, ni considérer qu'il était un mauvais écrivain. Qu'il ne vous convienne pas, je le conçois tout à fait. Alors, juste sur Apostrophe, n'oublions pas ça. C'est aussi cette époque-là qui se ferme. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où, en France, assez tôt dans la soirée, il y avait toutes les semaines une émission littéraire qui était une émission assez suivie, faute de quoi, d'ailleurs, elle n'aurait pas été maintenue. Et voilà, c'est ça aussi qui disparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour voir de la littérature à la télévision, il faut vraiment avoir du goût pour se coucher très tard et il ne faut pas espérer voir plus de 2 ou 3 minutes à la suite. Donc, c'est aussi ça qui se referme. Pour le meilleur et pour le pire, mais je crois que s'il était un si bon client, c'est pas seulement parce qu'il était un bon acteur. D'ailleurs, les bons acteurs sont assez généralement sincères. Luchini joue Luchini, vous avez raison, mais je pense qu'il pense aussi Luchini.
Ah, tout à
sinon,
fait.
Ça ne marcherait pas.
Tout à fait.
Hein, voilà. Alors, probablement, vous allez trouver
que
trop, pas assez à gauche, Aude Lancelin, mais enfin, c'est respectable aussi de ne pas être de gauche. Et bon, voilà.
Anna César Colosimo.
Oui, j'ajouterais que ce qui... alors effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant dans le cas de Johnny, parce qu'on lui a reproché beaucoup, son entourage musical lui a reproché de s'engager à droite, d'avoir fait le concert de Jacques Chirac, par exemple. Je pense que pour les deux, en réalité, ils ne sont pas très clivants politiquement.
Non.
Johnny n'est pas clivant politiquement parce que la vérité, c'est qu'il faisait le concert de Jacques Chirac et puis ensuite il allait au concert de Luma. Et en fait, dans les classes populaires, je pense qu'il pouvait drainer autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et dans le cas de Jean d'Ormesson, d'ailleurs, c'est une figure assez intéressante parce que je pense que c'était un homme de droite qui n'était pas réactionnaire. Non, mais il était conservateur, il n'était pas réactionnaire, c'était un vrai libéral. Et donc, il était beaucoup moins clivant que d'autres personnalités de droite. Et surtout, c'était, pour le coup, la droite cachère. Véritablement, c'est pour ça qu'il avait autant de... Et parce qu'il parlait surtout de la vie. Il parlait de la vie, de la mort, de l'amitié. Il avait ce côté-là sympathique. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il ait acquis ce côté sympathique avec la vieillesse. Pour avoir regardé des vidéos de lui jeune, il a toujours eu cette espèce de joie de vivre extrêmement communicative, celle dont parle d'ailleurs Fabrice Luchini. Hein, dans l'hommage qu'il lui fait. Donc je pense que voilà, ce sont deux personnages qui ne sont pas clivants et c'est ça qui permet aussi le fait qu'il y ait un engouement populaire et nationale.
On est presque au terme de cette discussion, et puisqu'on est une émission dans laquelle on discute de politique, et on essayait aussi de voir ce soir quelle était à la fois la portée et les fondements politiques des commémorations autour de ces deux disparitions. Je voudrais juste avoir votre commentaire, on n'aura peut-être pas le temps pour tous les quatre, mais à propos d'une réaction de quelqu'un qui est censé s'adresser au peuple, c'est le leader de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est intervenu pour dire moi finalement, j'ai pas forcément quelque chose d'original à dire sur la disparition, alors en l'occurrence de Johnny Hallyday. Je comprends tout à fait la peine des fans de Johnny, mais je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour en parler. Et c'est une réaction qui, comme à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs s'exprime, a provoqué un certain nombre de critiques. Il y a par exemple notre confrère de France Info, Jean-Michel Apathy, qui a considéré que c'était une faute professionnelle en disant « Comment un leader politique peut-il à ce point passer à côté d'une émotion collective sincère d'un peuple que l'on prétend incarner ?» Est-ce que les politiques, notamment, et peut-être aussi nos camarades journalistes, n'auraient pas eu raison de s'en inspirer un peu plus, justement, de cette façon de réagir?
Je pense exactement comme vous. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de faute professionnelle du point de vue de Mélenchon. D'abord, on dit bien ce qu'on veut dans l'arène politique. Donc, critiquer quelqu'un à raison de ce qu'il a dit, ça me paraît juste absolument insensé. Alors, au-delà la réaction de Mélenchon elle-même, moi, je suis partagé parce que d'une part,
c'est le côté injonction, quoi. Il faut forcément participer à cette émotion
collective. Non, mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule et c'est.
Vous avez compris que ça m'agace.
Moi, c'est ça que j'aime dans la réaction de Mélenchon.
Ah bon ?
Non, mais ce que j'aime dans la réaction de Mélenchon, c'est justement qu'il n'obéit pas à l'injonction de devoir un avis sur un sujet. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que, nous sommes tous bien placés pour savoir que trop souvent dans l'arène politique, tout le monde se croit obligé d'avoir un avis sur tout et très souvent, on n'en a pas forcément plutôt que de forcer à en avoir un. Bon. Et je suis partagé parce que ça, je trouve que c'est plutôt noble, en tout cas respectable. Du point de vue de Mélenchon, je le soupçonne malgré tout de ne pas avoir eu envie de parler parce qu'il a considéré que le peuple avait mauvais goût. Il a toujours considéré que le peuple avait mauvais goût. Ça le contrarie beaucoup. Par exemple, il trouve qu'au Venezuela, le peuple devrait évidemment supporter le président et ça ne lui convient pas que le peuple n'ait pas le même goût que le sien. Donc je le soupçonne aussi de n'avoir eu envie de s'exprimer sur le sujet, parce qu'il ne devait pas avoir beaucoup d'affection pour Johnny Hallyday, ce que je peux d'ailleurs tout à fait comprendre, et qu'il n'avait pas envie de critiquer un goût populaire.
Je vois qu'on a passé le point Venezuela, même dans une émission sur...
Quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas très difficile.
C'est très fort. Voilà. C'est le nouveau point Godwin. Non, écoutez-moi...
Vous qui faites une fixette sur le point Godwin, ça fait deux fois que vous nous parlez du sujet.
Ah, ce soir, pas du tout. Non, pardon.
Vous avez parlé du génocide rwandais.
Ah bah oui, mais c'est pas
point
Godwin, le génocide rwandais jusqu'à présent.
Non, mais vous l'avez comparé à d'autres.
Pardon ? Oui, enfin d'accord.
Ah oui, c'est tout.
Bon, d'accord.
Une conclusion peut-être parce que là,
de Philippe Manier.
Ah non, je suis parfaitement calme, je vous rassure.
Non, juste voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt élégant. D'une certaine façon, ça rejoint ce qu'a dit Jacques Dutronc quand il a parlé des pleureuses professionnelles au sujet de la mort de Johnny qui commençait à l'agacer prodigieusement. C'est ça, la triste illustration une fois de plus de la traque à la France insoumise dans les grands médias. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Anastasia Colosimo, Aude Lancelin, Philippe Manière et Pascal Horry. Pascal Horry, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage dès que je vais avoir mis la main dessus. Peuple souverain de la révolution populaire à la radicalité populiste. C'est publié chez Gallimard. Je précise que s'agissant du traitement médiatique de la disparition de Johnny Hallyday, ça fera l'objet de la FabMed, la fabrique médiatique, demain matin à 8h-20 sur France Culture dans les matins du samedi de Caroline Brouet. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Dulcer, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Michel Bernot, Jean-Michel Coqui et Julie Garraud.